الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Aujourd'hui on m'a demandé de parler d'un thème. Ce thème, les dangers qui guettent les jeunes et les remèdes à ces dangers. Les dangers qui guettent les jeunes et les remèdes à ces dangers. À partir du moment où on donne ce thème, les dangers qui guettent les jeunes, ça veut dire que les jeunes de la communauté sont en danger. Autrement, quelle importance de parler des dangers qui guettent les jeunes si nos jeunes ne sont pas en danger ? Nos jeunes sont en danger. Les jeunes de notre communauté sont en danger dans leurs croyances. Les jeunes de notre communauté sont en danger dans leur comportement. Combien de jeunes de notre communauté ne prient pas ? C'est là un grave danger pour eux. Combien de jeunes de notre communauté ne jeûnent pas ou ne jeûnent pas convenablement ? C'est là un grand danger pour les jeunes de notre communauté. Combien de jeunes de notre communauté fument, boivent, se droguent ? N'est-ce pas là un grand danger pour les jeunes de notre communauté ? C'est un grand danger pour les jeunes de notre communauté. La période de jeunesse pour un individu, pendant toute sa vie, cette période de jeunesse est décisive. Elle est décisive tout d'abord parce qu'elle comporte des facteurs qui vont le pousser, qui vont lui faciliter de désobéir à Allah, qui vont lui faciliter le péché, la désobéissance à Allah Azza wa Jalla. Pourquoi ? Parce que qui dit jeunesse, dit la force. La plupart du temps, la jeunesse rime avec la force. Et la force peut être utilisée dans le bien, comme elle peut être utilisée dans le mal. Jeunesse, ça signifie l'activité, la volonté. Et ça peut être utilisé dans le bien, comme ça peut être utilisé dans le mal. La jeunesse, ça veut dire le temps libre. Ça veut dire la santé. Et ça peut être utilisé dans le bien, comme ça peut être utilisé dans le mal. Quand nous disons les dangers qui guettent les jeunes, il faut savoir, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que la période de la jeunesse est une période décisive. C'est une période décisive parce qu'à ce moment-là, devant l'individu, s'expose à lui les différents chemins qu'il pourra choisir pour sa vie. Les différents modes de vie qu'il pourra prendre pour lui-même. C'est quand il est jeune que l'individu choisit d'être un croyant pieux ou un mécréant pervers et décadent. C'est pendant sa jeunesse que l'individu choisit de devenir quelqu'un qui va faire répandre le bien ou de devenir quelqu'un qui va faire répandre le mal. C'est pendant sa jeunesse que l'individu choisit la compagnie des gens bons, des gens pieux, ou la compagnie des gens mauvais. C'est pendant sa jeunesse que l'individu choisit de fréquenter les endroits dans lesquels on obéit à Allah Azza wa Jal, ou de fréquenter les endroits dans lesquels on pratique le péché et on désobéit à Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que la période de la jeunesse est une période décisive. Allah Azza wa Jal, à travers le Coran, quand il nous parle des gens du bien, quand il nous parle des gens de la guidée, il nous dit à plusieurs reprises, dans de nombreux versets, il nous dit « Alladhina amanu wa amilu salihat » Ceux qui ont la foi et ont accompli les bonnes œuvres. Les gens de bien, si on veut résumer, pourquoi ils sont des gens du bien, il y a deux choses. « Alladhina amanu » Ils ont la foi « wa amilu salihat » et accomplissent les bonnes œuvres. Donc à l'inverse, cela veut dire que les gens du mal, les mauvaises personnes, sont les gens qui n'ont pas la foi, sont les gens qui ont mécru, et les gens qui accomplissent le mal, les gens qui commettent les mauvaises œuvres. On va prendre ce titre, cette phrase, les gens qui ont mécru et les gens qui commettent le mal, qui accomplissent les mauvaises œuvres. Parce que cette phrase, elle résume les dangers qui guettent les jeunes, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Les dangers qui guettent les jeunes se résument dans cette phrase Alladhina kafaru wa amilus sayyi'at. Ceux qui ont mécru, ceux qui ont un problème dans leur croyance, ceux qui ont un problème dans leur aqida. Les dangers, les erreurs des jeunes de notre communauté dans leur aqida, dans leur cœur. Wa amilus sayyi'at, et accomplissent le mal ou les mauvaises œuvres, le danger dans mon caractère, dans mon comportement, dans mes œuvres, ce que je fais, ce qui apparaît dans les actes. Commençons par la première partie, Alladhina kafaru. Les dangers, toutes les différentes sortes de dangers, toutes les différentes catégories de dangers qui guettent les jeunes de notre communauté dans l'aqida. Il y a des gens qui se revendiquent de notre communauté. Il y a des jeunes qui se revendiquent de notre communauté et qui disent être, par exemple, des musulmans athées. Et ça, ça rentre dans le cadre de la mécréance. Le plus grave des dangers de la aqida pour nos jeunes, c'est la mécréance. Le fait de se choisir une autre religion que celle de l'islam. Le fait de se choisir une autre croyance que celle de l'islam, celle qui nous commande de se soumettre à Allah Azza wa Jalla. Il y a des gens, comme on a dit, des jeunes qui se revendiquent de notre communauté et qui disent « nous sommes des musulmans laïcs ». Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on leur demande, ils nous disent, ça veut dire que mon islam, ma foi, est dans mon cœur. Ma foi, ma religion, mon islam ne va pas au-delà de ma langue. Il n'y a aucun besoin ni aucune nécessité à ce que je prie. Il n'y a aucun besoin ni aucune nécessité pour la femme musulmane de mettre le hijab. Il n'y a aucun besoin ni aucune nécessité de pratiquer n'importe quel acte ou n'importe quel pilier de l'islam. À partir du moment où je crois en Allah et je crois fermement et sincèrement que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bien le messager d'Allah. Voilà ce que ces gens-là disent. D'autres personnes qui vont plus loin aussi dans leur mécréance disent carrément, ils se revendiquent de notre communauté. Ça existe à travers le monde entier, tenez-vous bien. Ils disent, nous sommes des musulmans homosexuels. Nous sommes des musulmans homosexuels, qu'ils disent. Et ils disent, il n'y a aucune contradiction là-dedans. Malgré tous les récits que le Coran nous rapporte, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté à propos du peuple de Lot, qui fut le premier peuple qui a commis ce grave péché. Et comment Allah azza wa jalla les a sanctionnés, les a châtiés dans la vie d'ici-bas, dans celle de l'au-delà. Et ils prétendent dire qu'il n'y a aucune contradiction à dire que nous sommes musulmans, et en plus, nous pratiquons ce méfait. Là aussi, c'est de la grande mécréance. Il y a certains de nos jeunes qui, à la base, étaient ignorants de leur religion, sont tombés dans le piège des sectes chrétiennes et catholiques et les différentes branches chrétiennes et catholiques. Combien de gens ont voulu élever leur fierté berbère? Les associations du nationalisme berbère qui sont en train de proliférer dans le Maghreb, et qui, à travers ces associations-là, ils nous appellent à quoi? Ils nous appellent à devenir catholiques. Ils nous appellent à devenir des gens qui idolâtrent, des gens qui sont des idolâtres et des gens qui associent à Allah. Combien de gens, au début, ont commencé dans ces associations-là à dire « Nous sommes des kabibs, nous sommes des rifs, nous sommes des shlouk, nous sommes des sous, nous sommes ceci, nous sommes cela » et à la fin, ils disent « Wal'iyadu billah, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ou combien de jeunes de notre communauté ici, dans la région, sont tombés dans le piège des témoins de Jéhovah. Et aujourd'hui, quand tu regardes qui ils envoient faire du porte-à-porte, ce sont nos anciens frères, nos cousins, qui par leur ignorance ont été déviés, et aujourd'hui c'est eux qui leur font leur da'wah, c'est eux qui appellent à leur égarement. Les jeunes qui étaient dans notre communauté. Voilà quelques exemples de la grande mécréance, la grande idolâtrie qui guette nos jeunes. Il y a aussi ce qu'on appelle de manière générale ash-shirk, l'association à Allah, le fait d'associer à Allah dans l'adoration. C'est pour cela que Luqman, le sage, quand il a donné ses recommandations à son fils, la première chose qu'il lui a dit, comme le Coran le mentionne, c'est qu'il l'a mis en garde contre l'idolâtrie. Il l'a mis en garde contre le fait d'associer à Allah. Allah Azza wa Jalla nous dit: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman donna ses conseils, ses recommandations à son fils, il lui dit: ô mon fils, n'associe point à Allah. Car l'association à Allah est une grande injustice. Alors ô mon fils, ô mon frère, ô ma sœur, vous qui êtes jeunes, n'associez point à Allah, n'idolâtrez pas, car l'association à Allah est une grande injustice. C'est une injustice contre ton Seigneur et ton Créateur. C'est une injustice contre toi-même. C'est une injustice et ce sont des ténèbres dans ta vie. Alors n'associe point à Allah. Et il y a aussi une sorte d'injustice que les savants appellent Ash-Shirk al-Asghar ou Ash-Shirk al-Khafi. La petite idolâtrie, la petite association à Allah ou l'association à Allah, l'idolâtrie cachée. Ce sont des idolâtries que nous commettons par nos langues et par nos actes sans nous en rendre compte. Et c'est très répandu parmi les jeunes de notre communauté. Sans nous en rendre compte, nous les commettons. Par exemple, le fait de jurer par autre qu'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man halafa bi ghayri Allah faqad kafa. Celui qui jure par autre qu'Allah, il a commis une mécréance. Combien de jeunes de notre communauté jurent partout, sauf par Allah. Certains les entendent dire par le Coran de la Mecque. Comme s'il y avait un Coran d'Alger, un Coran de Rabat, un Coran de Gaza. Combien jurent par leur mère, subhanallah, la vie de ma mère, sur la tête de ma mère, sur la tête de ma grand-mère qui est dans sa tombe, subhanallah. Ou alors, l'expression répandue: ma mère, elle meurt. Subhanallah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu es en train de... Est-ce que tu souhaites que ta mère, elle décède? Explique-nous. Et il faut nous expliquer: ma mère, elle meurt. Il commence sa phrase par ma mère, elle meurt. Ça me fait rappeler quand j'étais au lycée, il y avait un frère. Et sans y penser, il commençait toutes ses phrases par cette expression. À chaque fois qu'il commençait une phrase: ma mère, elle meurt ceci, ma mère, elle meurt cela. On a parlé avec lui. Mon frère, subhanallah, ma mère elle meurt, c'est quoi? Il faut arrêter de dire ça. Mais il y a tellement l'habitude de le dire qu'il arrive, il me disait tout le temps. Hein? Un jour, il a commencé sa phrase, il dit: ma mère elle meurt, je lui dis Inch'Allah. Il a dit: subhanallah, pourquoi tu dis ça? Tu l'espères tout le temps, tu le souhaites tout le temps. Ben, Inch'Allah, si c'est tout ce que tu veux. Depuis ce jour-là, alhamdoulilah, il a arrêté de le dire. Quoi? D'autres idolâtries cachées, d'autres exemples d'idolâtries cachées. Quand un des jeunes de notre communauté, quand l'un d'entre nous est touché par une maladie, il est touché par une épreuve d'Allah, il est touché par une calamité ou un fléau, ses premières demandes, son premier appel au secours, elle se dirige instinctivement et directement vers qui? Vers l'individu, vers la créature, vers l'homme, vers l'ami, vers le médecin, vers l'assistante sociale. Et il oublie de demander à Allah Azza wa Jalla. Et il oublie de s'en remettre d'abord et avant tout le monde, de s'en remettre à Allah Azza wa Jalla. Ça aussi, c'est une idolâtrie. Petite idolâtrie qui est cachée, qui peut devenir une grande idolâtrie. Quand on est touché par un bienfait, je me marie, j'ai un enfant, j'ai eu mon bac, je passe mon année, toutes ces sortes de bienfaits que je peux avoir, je devais me faire frapper par mon père, alhamdoulilah, il n'y a rien vu, je ne me suis pas fait frapper. Toutes les sortes de bienfaits qu'on peut vivre dans sa jeunesse, on oublie de remercier Allah Azza wa Jalla. On remercie l'individu. L'amour, la passion qu'on porte pour les choses, pour les individus. Combien de jeunes de notre communauté aiment les choses et les individus? Ils aiment leur passion, ils aiment leur loisir, ils aiment le foot. Et ils sont capables de sacrifier des choses pour le foot qu'ils ne sacrifient pas pour Allah. Agis. Combien de jeunes se cassent le tibia pour le foot? Combien de jeunes se cassent, se fracturent les os pour le foot? Vous avez déjà entendu quelqu'un se fracturer les os pour Allah Azza wa Jalla? Il se fracture l'os, 6 mois de rééducation, le plâtre, tout ce que tu veux. Massage, kinésie, tout. Et après, quand il guérit, il retourne. Agis, bien amis. Agis. Quelle adoration avec concentration, agis. Je suis pas en train de vous dire, il faut ce soir, vous rentrez à la maison, vous prenez une matraque et vous commencez à fracturer votre pied pour Allah. Non, je n'ai pas dit ça. Mais regardez la passion qu'on donne pour les choses et la passion qu'on oublie de donner pour Allah Azza wa Jalla. Et le pire des dangers aussi, c'est la passion qu'on donne pour les individus, pour les filles. Combien de personnes aiment les femmes ou aiment les filles plus qu'ils n'aiment Allah? Et la preuve, c'est que lorsque tu dis à un jeune, akhi, qu'est-ce que tu fais? C'est haram de sortir avec elle. T'as pas le droit de sortir avec une fille. C'est haram. Dans sa tête, qu'est-ce qui vient dans sa tête? Allah m'a interdit, mais elle, je l'aime bien. Choisis. Hein. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que sa passion pour cette fille, elle est au-dessus de sa passion pour Allah Azza wa Jalla. Et c'est là une grande idolâtrie. Ensuite, il y a aussi une sorte de petite idolâtrie contre laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a souvent mis en garde. Dans un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmad al-Bayhaqi, qui est authentifié par l'Albani rahmahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna akhwaf ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء. Dans ce hadith, le prophète Hassan a dit la chose que j'ai le, dont, à propos de laquelle j'ai le plus peur pour vous, c'est la petite idolâtrie. C'est la petite sorte d'association qu'on peut commettre. Les compagnons ont dit, mais c'est quoi? C'est quoi cette petite association? Il a dit Arya, l'ostentation. C'est quoi l'ostentation? La mauvaise intention. Le contraire de l'intention sincère. Au lieu de faire quelque chose, mon adoration, de pratiquer mes adorations pour Allah Azza wa Jal, je l'ai fait pour un autre intérêt de la vie d'ici-bas, pour un individu, pour plaire à un tel ou un tel. Ça, c'est la petite idolâtrie, comme le professeur Sam l'a désigné. Et on doit, nous, les jeunes, se poser cette question. Je prie. Pourquoi je prie? Pour qui je prie? Je jeûne. Pourquoi je jeûne? Pour qui je jeûne? Est-ce que c'est parce que j'ai vu mes parents faire comme ça? Alors moi aussi je deviens comme mes parents? Est-ce que c'est parce que mes parents m'y ont forcé quand j'étais jeune alors j'ai continué à le faire? Ou alors c'est parce que vraiment je cherche la satisfaction d'Allah Azza wa Jal? Vraiment, je désire plus que tout qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de moi et me récompense pour ses actes. Et là c'est très dangereux. Parce que tous nos actes peuvent être invalidés à cause de cette mauvaise intention. Prie autant de fois que tu veux. Jeûne autant de fois que tu veux. Mais franchement, combien de nos adorations ont été appliquées sincèrement pour Allah Azza wa Jal, en recherchant uniquement la satisfaction d'Allah Azza wa Jal? Je préfère même pas donner de réponse. On raconte l'histoire d'un homme qui priait dans une mosquée, priait, il est venu après l'Isha, il est venu en retard. Priait, il est venu pour prier la dernière prière, la prière de l'Isha. Il n'y avait plus personne à la mosquée, les portes étaient ouvertes. Il est rentré, il a commencé à prier. Il a commencé à prier comme il priait quand il prie tout seul. Comment les gens prient quand ils prient tout seul? Je ne comprends pas ce qu'ils disent personnellement. Donc il a commencé à prier à toute vitesse comme ça. La prière TGV, vous connaissez? Agile. Il a commencé à prier et il lisait à toute vitesse. Il lisait la Isha ou du Il a entendu quelqu'un entrer. Derrière, il a entendu quelqu'un entrer. Il a entendu des pas. Il a changé sa lecture. Il a eu lentement, il a médité les versets agis. Et il entendait derrière lui les pas, il entendait du bruit. Il a terminé la prière, salam alaikum. Salam alaikum. Il s'est retourné. C'était un chien qui était entré dans la mosquée. Les savants, ils disent, Had Rajul Hada, cet homme, il a prié pour un chien. Il s'est concentré dans sa prière pour un chien. Il a pleuré dans sa prière pour un chien. Voilà le danger de l'ostentation. Ensuite, l'autre danger qui guette nos jeunes dans la croyance, ce sont les mauvaises croyances et les égarements dans la croyance des sectes égarées. Les sectes égarées qui ont fait partie à l'origine de l'islam et qui ensuite se sont égarées et ont dévié, eux aussi, ils infiltrent nos jeunes et ils sèment de mauvaises croyances. Combien de jeunes de notre communauté ? Dans la région. C'est pas la peine d'aller voir. Ils sont devenus des chiites. Quand je dis des chiites, c'est-à-dire des gens qui insultent les compagnons, radiallahu anhu. Des gens qui insultent notre mère, la mère des croyants, Aïcha, radiallahu anhu. Pourquoi ils sont devenus comme ça ? Par ignorance. Sous prétexte qu'ils soutiennent la résistance et la liberté des peuples, sous prétexte qu'ils défendent par exemple la résistance du Liban, et qui dit résistance du Liban dit Hezbollah, qui dit Hezbollah dit chiite, et qui dit chiite dit insulte aux compagnons et insulte à Aïcha radiallahu anha et aux autres épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Ou une autre secte qui est bien répandue en France, celle qu'on appelle Ahbash. En français, je ne sais pas ce que ça donne, mais ça ressemble aux Apaches. Ça doit être ça la traduction, les Apaches. L'Ahbash. Qui, comme grave danger qu'ils font répandre dans la communauté, eux, c'est le fait de renier tous les attributs d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran qu'il a des attributs. Il nous dit, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Le miséricordieux sur le trône, il s'est établi. Allah s'est établi sur le trône, c'est un attribut. Allah Azza wa Jal nous informe qu'il entend tout. C'est un attribut. Allah Azza wa Jal nous informe qu'il voit tout. C'est un attribut. Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a des mains. C'est un attribut. Il renie tous ces attributs, la secte l'Ahbash, et ils font à chaque fois des métaphores. Non, quand il a voulu dire la main, il a voulu dire la force. Quand il a dit il s'est établi, il a voulu dire qu'il a pris position, qu'il a pu gagner le Al-Muhim, ils nous font des métaphores. C'est-à-dire qu'eux, ils savent mieux qu'Allah, ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu nous dire dans le Coran. Mais nous, qu'est-ce que nous disons ? Nous disons Allah Azza wa Jal, quand il s'est donné un attribut, nous lui donnons cet attribut. Mais cet attribut n'est en aucun cas comparable aux attributs que nous connaissons. La main d'Allah Azza wa Jal n'est pas comme la main d'un individu ou la main d'une créature. Et pour nous, cette main est tellement parfaite que nous ne pouvons pas l'imaginer. Allah Azza wa Jal voit, il a une vue, mais elle est tellement parfaite que nous ne pouvons pas la comparer ni l'imaginer. Et comme Allah Azza wa Jal le dit lui-même, « Laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir » Nul ne lui est comparable. Rien ne lui ressemble. Mais en même temps, il est celui qui entend et qui le voit. C'est-à-dire, il a ces attributs-là. On ne peut pas renier ces attributs. Mais ces attributs-là, rien ne leur sont comparables et on ne peut les comparer à rien. Tellement ils sont parfaits. Ça, c'est ce qui concerne les dangers qui guettent nos jeunes dans la croyance. Alladhina kafaru. Il nous reste la deuxième partie. Walladhina amilu sayyi'at. Et ceux qui accomplissent les mauvaises œuvres. Ceux qui accomplissent les mauvaises œuvres. Ceux qui font le mal. Ici, il y a deux choses qu'on doit voir. Quand on parle d'accomplir le mal, d'accomplir les bonnes œuvres, il y a d'une part l'abandon et la négligence des adorations et des ordres d'Allah Azza wa Jal. Et d'autre part, il y a le fait de ne pas avoir un bon comportement et le fait d'aller vers la désobéissance à Allah et de commettre le péché. Ces deux choses-là sont contenues dans Al-Ladhina amilu sayyi'at, ceux qui accomplissent les mauvaises œuvres. Comme Allah Azza wa Jal dit dans un verset, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Et après eux, des générations sont venues qui ont délaissé la prière. Première chose, délaissé la prière. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, et qui ont suivi leurs passions. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, ils ne trouveront qu'une grande perdition. أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, إِضَاعَةُ الصَّلَاةَ, la négligence et le délaissement des prières. Ici, qui est symbolisé par la négligence de toutes les adorations. Et l'autre élément, ils ont suivi leur passion. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, ils ont suivi leur passion. Qui suit sa passion commet le péché. Pourquoi l'individu commet le péché? Parce qu'il a suivi sa passion. Commençons par le fait de ne pas accomplir l'adoration d'Allah Azzawajal. Par le fait de ne pas accomplir les piliers d'Allah Azzawajal. Et en effet, c'est là un vice qui s'est répandu parmi les jeunes de notre communauté. Parce que certains ont infiltré dans notre communauté une idée qui à l'origine est chrétienne, c'est l'idée du croyant non pratiquant. Tu pries ? Ah non, moi je suis croyant non pratiquant. Ah d'accord. C'est une idée qui n'existe pas dans l'islam. La foi, c'est trois choses. Le cœur, la langue et les actes. Ça ne veut rien dire en islam croyant non pratiquant. On peut dire à la rigueur croyant d'une croyance qui n'est pas complète parce qu'il lui manque les actes. Il a un manque dans son acte, dans sa croyance. Mais on ne peut pas dire qu'il est totalement croyant et non pratiquant. Ça ne veut rien dire en islam. Et le fait de négliger la prière, de ne pas prier, ou de prier toutes les prières en fin de journée, ou de prier les prières loin de la mosquée, ou de prier les prières loin de leurs heures, bien définies, le fait de jeûner, ou de ne pas jeûner convenablement, tout ça, ce sont des mots qui touchent en particulier les jeunes de notre communauté. Ensuite, il y a les jeunes de notre communauté qui font leurs adorations, qui jeûnent, qui prient, qui sont même actifs dans la communauté, mais qui ont un problème. Ce problème, c'est le fait de ne pas faire répandre le bien. Combien de jeunes sont actifs, mashallah, ils sont des élites pour la communauté, ici, en France. Mais ils ne font pas répandre le bien. Ils ne sont pas au service de leur communauté. Ils ne sont pas au service de leurs frères. Et comme le professeur sallam a dit dans un hadith, qui a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi, Ibn Hibban, et qui a été authentifié par l'Albani rahmallah, le professeur sallam dit, « Akmal nasi imanan ahsanuhum khuluqa » Les plus parfaits des gens dans leur foi, ce sont les meilleurs dans leur comportement et leur caractère. Et dans un autre hadith qui a été rapporté par Abu Daoud et également authentifié par l'Abani rahmallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Khaba abdun wa khasira lam yaj'alillahu fi qalbihi rahmatan lil bashar. L'individu est vraiment en état d'échec. Il est vraiment un grand perdant si Allah n'a pas mis dans son cœur de la clémence, de la douceur, de l'affection pour l'humanité, pour les autres, qu'ils soient musulmans ou non. Celui qui n'éprouve pas dans son cœur de l'affection pour son frère, celui qui ne veut pas le bien pour son frère, il n'a aucun bien en lui. On ne peut pas se dire croyant si on ne cherche pas le bien pour son frère, si on ne cherche pas de l'affection pour son frère. Ensuite, toujours dans ce cadre de Alladhina amilu sayyi'at, ceux qui accomplissent les mauvaises œuvres, ceux qui commettent le mal, il y a les péchés et les grands péchés qui sont répandus parmi les jeunes de notre communauté. Et si on commence à parler de tous les péchés que les jeunes de notre communauté commettent, on va rester ici jusqu'à demain matin. Voilà qu'on va s'attacher au plus important. Et celui qui met le plus en danger nos jeunes et qui met le plus en danger nos adolescents, c'est la fornication. Le fait de commettre l'illicite, le haram, avec une fille, ou inversement, c'est quelque chose qui est très répandu. Non. Il y a des causes et des facteurs qui facilitent ce grand péché. Nous allons parler de toutes ces causes et tous ces facteurs. Tout d'abord, ce qui est répandu chez les jeunes parmi ces facteurs, c'est le fait de parler de ça. De parler des filles. De parler de leur forme. De parler de ce qui pourrait être fait avec cette fille. Comment un jeune qui vit dans cette société dans laquelle on vit, ou dans laquelle dans toutes les publicités on voit des femmes qui sont en état d'exhibition, comment un jeune, si en plus de ça il est avec ses amis, toute la journée, il va parler de ça. Comment quand il va rentrer le soir, il va commencer à faire le haram? Le fait d'écouter tout ce qui a un rapport avec ce péché, c'est aussi un facteur qui pousse les jeunes à commettre ce péché. Le fait d'écouter des chansons qui parlent de ça. La plupart des chansons, comme le raï par exemple, ou d'autres styles de chansons ou de musique, nous poussent à commettre ce méfait. Et le pire dans ces chansons-là, c'est qu'on utilise des noms de femmes musulmanes dans le raï. Certains ont même utilisé le nom de Aïcha radiallahu anha. Et ce sont des choses qui réveillent l'instinct et le désir sexuel du jeune. Donc toutes ces choses-là sont haram également. Parce que le professeur, parce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit « وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا » Et ne vous approchez pas de la fornication. Car c'est une turpitude et un bien mauvais chemin pour vous. Allah Azza wa Jalla, ce qu'il nous a dit « وَلَا تَزْنُوا » Non, il ne nous a pas dit « Ne commettez pas la fornication ». Il nous a dit « وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا » Ne vous approchez pas de la fornication. Comme il a dit à notre père Adam et à sa femme Hawa, « وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ » Et ne vous approchez pas de cet arbre. Parce que l'arbre symbolise l'interdit. Ce qu'Allah nous a interdit à nous, l'humanité, à notre père Adam et à notre mère Hawa, c'est l'arbre. Allah Azza wa Jalla, il a créé l'homme et il sait comment il l'a créé. Et il sait qu'il doit lui mettre un périmètre de sécurité. C'est pour ça qu'il ne lui a pas dit « Ne va pas manger du fruit interdit. » Non, il lui a pas dit ça. Il lui a dit « Ne t'approche pas de l'arbre. » Tout ce qui pourrait te rapprocher de cet arbre, tout ce qui pourrait te pousser à manger de ce fruit interdit, ne le fais pas car ça c'est interdit. Tout ce qui pourrait te pousser à commettre la fornication, c'est comme si tu commettais la fornication, c'est interdit. Le fait de parler toute la journée, les choses qui ont à voir avec la fornication, c'est interdit. Le fait d'écouter, comme on a dit, les choses qui ont un rapport avec la fornication, c'est interdit. Le fait de regarder ce qui a un rapport avec la fornication. Le fait de regarder les femmes et les formes des femmes, c'est ce qui pousse à commettre l'interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui a été authentifié par l'Abdan et l'Ahmadullah, il nous interdit et nous déconseille de rester dehors et de s'asseoir et de squatter, ce qu'on appelle nous le squattage. Il dit sauf si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement. Vous devez parler quelque chose d'important et vous devez vraiment le faire, à ce moment-là il dit, allez-y, squattez entre guillemets, mais baissez le regard. Et quand quelqu'un vous salue, répondez-lui le salut et baissez le regard. Pourquoi baisser le regard? Parce que la rue c'est l'endroit de tous les dangers. Dans la rue, on n'est plus à l'abri. Le fait de s'isoler, le fait, toujours on a dit, de regarder, ça peut être par des films. Et les films, je ne parle pas forcément uniquement des films qui sont interdits au moins de 18 ou au moins de 16. Non, ce n'est pas forcément de ça que je parle. Dans la plupart des films qui sont diffusés aujourd'hui, non seulement c'est une perte de temps, mais en plus de ça, il y aura une dizaine de scènes dans ces films-là où on voit des choses qui sont haram et qui éveillent nos instincts sexuels et qui nous poussent à commettre l'interdit. Quand on dit « regardez », on parle aussi d'Internet, les publicités sur Internet ou les sites sur Internet qui ne sont faits que pour nous pousser à commettre l'interdit. Ensuite, le fait de s'isoler avec une femme qui n'est pas de notre famille. Quand je dis qu'il n'est pas dans notre famille, il faut bien comprendre. C'est pas parce qu'elle est de notre patelin du bled qu'elle est de notre famille. Hein. Quand on dit qu'elle n'est pas de notre famille, c'est-à-dire que ce ne soit ni notre sœur, ni notre tante, ni notre mère, ni notre grand-mère, ni notre fille. Le reste, cousine, même les cousines, c'est interdit de s'isoler avec sa cousine. Le fait de s'isoler avec une femme avec laquelle il ne nous est pas permis de s'isoler nous pousse à commettre l'interdit. Et la mixité également nous pousse à commettre l'interdit. La mixité qui s'est répandue parmi les musulmans. La mixité qui est une des habitudes des mouchriquines, des idolâtres au temps de la jahiliya, et une habitude aujourd'hui des mécréants, c'est une chose qui s'est également répandue parmi les musulmans. Combien de jeunes de notre communauté? Combien de jeunes de cette ville, quand ils choisissent de se marier, ils choisissent de faire ce qu'on appelle un mariage mixte. Ils le revendiquent et ils en sont fiers. Wallahi, c'est là un grand péché. Wallahi, c'est là un grand méfait. Non seulement parce qu'il y a la mixité, c'est interdit, mais en plus que cette mixité-là, dans cette mixité-là, on va appeler à l'exhibition. On va appeler à ce que tout le monde danse ensemble, à ce que tout le monde se touche en dansant. Subhanallah. Et si ça, ça ne pousse pas à commettre l'interdit, qu'est-ce qui pousse à commettre l'interdit? Et ensuite, il y a aussi quelque chose qui s'est beaucoup répandu parmi nos jeunes. Sortir avec une fille. Ou pour une fille, sortir avec un garçon. Avant, c'était quelque chose qu'on voyait dans certains coins, concernant les jeunes de notre communauté, dans certains coins, dans certains lycées seulement. Maintenant, c'est quelque chose qui s'est répandu partout. Dans les grandes villes, dans les petits villages, et à partir du collège. À partir du collège. L'enfant, il vient d'abandonner la tétine, il y a 11 ans, il y a 12 ans, il y a 6e, et il parle de sortir avec des filles. Allah et Ikhwan, j'ai déjà entendu ça de mes oreilles. À 11 ans, 12 ans. La précocité, elle existe aussi dans le haram, dans l'interdit. Le fait de sortir avec une fille avant le mariage est un interdit, c'est quelque chose qui pousse à commettre le haram. Alors ici, on a deux choses. On a ou bien ceux qui ouvertement veulent désobéir à Allah et qui veulent commettre l'interdit, ils savent que c'est interdit et ils sortent avec une fille pour commettre l'interdit. Je peux rien dire, j'ai aucune arme. Ou alors il y a ceux qui prétendent qu'ils sortent avec des filles pour pouvoir faire connaissance avant le mariage. Ou parce que c'est elle, normalement c'est sûr, c'est elle, dans un an on a prévu, on va se marier. Mon œil. Si Allah Azza wa Jal, et si le professeur Hassan nous a interdit de faire ça, c'est parce que c'est un mal pour nous. Et regardez autour de vous. Écoutez les histoires qui se sont déroulées autour de vous. Combien de jeunes ont commis cet interdit? Non, tac. Et subhanallah, pour finir, il ne s'est pas marié avec elle, on a qu'il est enceinte. Hein? Combien ici à l'humain? Combien il y a d'enfants, de jeunes de notre communauté? C'est pas la peine de se fermer les yeux. Non seulement on commet l'interdit, et ensuite on abandonne les enfants, les abandonnent. Qu'il reste avec elle et qu'ils deviennent mécréants comme sa mère. Subhanallah. Et il y a ceux qui commettent cet interdit uniquement pour pouvoir ressembler, parce qu'ils veulent ressembler aux mécréants. Parce qu'ils ont comme modèle les mécréants. Si eux ils le font et ils s'en vantent et ils aiment bien, pourquoi moi je ne le ferai pas? Ça doit être bien. Et on oublie de prendre comme modèle notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Il y a pour vous, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un meilleur modèle à suivre. Pourquoi on cherche un modèle en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam? En dehors des compagnons, radiallahu anhu. Ensuite, pour terminer, parce qu'on en a pris beaucoup de temps, il y a d'autres grands péchés qui sont répandus parmi les jeunes de la communauté. On ne va pas rentrer dans les détails, comme le fait de se droguer, comme le fait de boire, comme le fait de fumer, etc., etc. On va faire un résumé sur les remèdes à ces dangers. Premièrement, et ça concerne en particulier les erreurs dans la aqida, dans la croyance, apprendre sa religion. Apprendre sa religion. Et quand on dit apprendre sa religion, c'est apprendre la véritable science, la science authentique. Mais pour pouvoir apprendre la véritable science et la science authentique, il faut avoir des moyens et des outils qui sont fiables et authentiques. Quels sont ces moyens? Est-ce que ce sont les livres? Ils ne sont pas suffisants pour apprendre la véritable science, les livres. Est-ce que c'est Internet? Les sites islamiques? Ils ne sont pas suffisants. Et quelquefois, ils font plus de tort que de bien. On a besoin de tout ça et on peut s'aider de tout ça. Mais il nous faut absolument avoir un professeur. Quelqu'un qui est au-dessus de nous, dans la science et dans la religion, et c'est lui qu'on va suivre. C'est à lui qu'on va demander de nous corriger quand on a appris quelque chose à travers Internet, ou à travers les livres, ou à travers ceci ou cela. Sans ça, jamais on n'aura une science fiable et authentique, et donc jamais on n'aura une croyance fiable et authentique. Ensuite, le deuxième remède, le choix de la fréquentation. Et ça, c'est en particulier pour le danger de la fornication, le danger, les autres péchés tels que boire l'alcool, ou se droguer, ou fumer, etc. La fréquentation. Rien d'autre. Celui qui est avec une personne bien, il sera bien. Celui qui est avec une mauvaise personne, il sera bon. C'est l'un ou l'autre qui te double. Toi, tu es bien, lui, il est mauvais. Ou bien tu deviens comme lui, ou bien il devient comme toi. Et dans la plupart du temps, c'est le mal qui gagne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tout seul, il y a Shaitan qui l'aide, le sien, son Shaitan à lui et ton Shaitan à toi. Ils sont trois contre toi. Et toi, tu vas essayer de convaincre lui de devenir comme toi. Combien de gens il y a appris? Cette personne, elle est mauvaise pour toi. À chaque fois que tu es avec lui, tu commences à sombrer dans l'égarement, tu t'éloignes de la mosquée, tu t'éloignes de la prière, tu négliges tes prières, tu fumes, tu fais ceci, tu fais cela, il n'y a rien de... Non, mais c'est quelqu'un de bien. Non, mais c'est mon sahab. Non, mais... C'est quelqu'un de mauvais pour toi, éloigne-toi de lui. Tu as le droit, et plutôt tu as le devoir de vouloir le bien pour lui. Va lui rappeler, va l'appeler Allah. Mais dès que la conversation se termine au sujet d'Allah Azzawajal et qu'il commence à parler de tout et de n'importe quoi, éloigne-toi, parce que c'est un danger pour toi. Ne te crois pas à l'abri. Ne te crois pas, ne te dis pas, non, t'inquiète, il n'y a personne qui va me dire. Ça n'existe pas, ça. L'être humain est faible. Et si le professeur Salem nous a ordonné de choisir la bonne fréquentation, c'est parce qu'il en était persuadé que l'être humain était faible et qu'il pouvait se faire détourner et se faire tenter par son entourage. Troisième chose, le choix de l'endroit qu'on fréquente. Si je suis toujours en train de squatter devant chez Martin, si je suis toujours en train de squatter là-bas ou là-bas, comment? Qu'est-ce qui va me pousser à venir à la mosquée? Qu'est-ce qui va me pousser à obéir à Allah Azza wa Jalla? Ces endroits-là que je squatte ne peuvent me pousser qu'à commettre le mal. Je dois m'attacher aux endroits dans lesquels on adore Allah Azza wa Jalla. Il y a 5 prières par jour à la mosquée dans la maison d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi je ne fréquente pas cet endroit 5 fois par jour? Quatrième chose, et ça concerne surtout le comportement. Quand on a dit que beaucoup de nos jeunes n'ont pas d'affection pour leur communauté, n'ont pas d'affection pour les autres, ne veulent pas et n'éprouvent pas ce sentiment de vouloir le bien pour les autres. C'est le remède à ça, c'est le fait de toujours chercher à corriger ses défauts avant de vouloir corriger celui des autres. Chacun d'entre nous a cette tentation, il a cet instinct, il est poussé à toujours regarder les défauts des autres et à vouloir corriger. Ah, mon frère, t'as fait une faute. Et on est fier d'aller dire. Quand on a vu quelqu'un qui a mal prié ou quelqu'un qui a fait une erreur ou qui s'est mal exprimé, ah, moi j'ai entendu dire et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Non seulement on n'a pas le tact, on n'a pas la bonne intention pour le faire, et on a oublié qu'on est pire que cet individu. Et on a oublié que le professeur Hassan nous a dit, ton frère c'est ton miroir. Quand tu vois un défaut chez lui, c'est que toi tu l'as ce défaut. Rappelle-toi des défauts que tu as toi avant de vouloir aller le corriger. Et là on arrivera à soigner notre comportement. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Barak Allahu fikoum pour votre attention. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.